chômage faut t'occuper. Le chômage faut préoccuper. Occuper les AMPE. Occuper les AMPE.
Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par des militants d'attaque et les journalistes du PIAF. Alors ce soir, nous allons parler d'éducation, un vaste sujet qui ne va peut-être pas tenir en une heure, mais on va essayer d'être clair et concis pour enchaîner et dire un maximum de choses sur ce sujet crucial et qui malheureusement est un peu trop absent de l'actuelle campagne électorale, ce qui est bien dommage puisque c'est quand même l'avenir de tout un pays qui se joue.
L'actuelle campagne, par contre, c'est Sarkozy sur tous les plans, mais on va quand même vous en parler pour une petite remarque.
Oui, alors notre président candidat est quelqu'un de très très drôle et il a été encore drôle cette semaine. Il a déclaré deux jours de suite des choses intéressantes. Premier jour, il dit que s'il n'est pas réélu, ce que beaucoup de gens souhaitent, et nous en particulier, eh bien, il se retirera de la vie politique. Mais par contre, le lendemain, il n'oublie pas de dire que s'il se retire de la vie politique, il ne sera pas inactif et qu'il voudra faire de l'argent. On s'en serait douté.
De l'argent, tout le monde en veut, et en particulier les footballeurs, n'est-ce pas Boris ?
Ouais, tout à fait. Alors, vous avez sûrement entendu François Hollande, qui a proposé de façon imprévue, lors de l'émission de TF1 Parole de candidat, le 27 février dernier, de taxer les revenus au-dessus de 1 million d'euros par an, au taux de 75%. Alors, beaucoup à gauche considèrent que la mesure est surtout symbolique. Hollande lui-même considère que c'est un message de cohésion sociale, qu'il y a un effort à faire et que c'est faire acte aussi de patriotisme. Alors, tout de suite, l'UMP a poussé des cris d'orfraie, spoliation, impôts confiscatoires. Le monde du football a tout de suite enchaîné le pas et s'est mis à piauler comme si on lui avait déjà enlevé ses petits. Et pour David Douillet, cela va tuer le sport français. Rien de moins.
Alors, et David Douillet, il faut le dire, ministre des Sports, est un grand fiscaliste.
Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est le salaire d'un footballeur ? Parce qu'on parle de salaire des footballeurs, et on sait bien que c'est des choses que les fédérations font, et surtout les clubs, font en sorte de cacher. Alors, j'ai un peu cherché. J'ai pas les chiffres récents, mais en gros, un footballeur de Ligue 1, en moyenne, gagne 40 000 euros par mois. Donc, ça fait, ça fait 400 000 euros par an. Il y a de très très fortes disparités en fonction des clubs. Mais en 2010, par exemple, les sportifs les mieux payés, les footballeurs les mieux payés, gagnaient 4,8 millions d'euros en salaire. Donc on parle de salaire, mais on ne parle pas des rétributions de publicité et autres. Donc voilà, on est à peu près, on est du vers 5 ou 6 millions, on peut imaginer. Alors du coup, on peut se dire, le Nouvel Observateur avait publié, pendant l'été 2011, un appel des 16 très hauts revenus qui demandaient à être taxés davantage. Je cite, « Au moment où les déficits de les finances publiques et les perspectives d'aggravation de la dette de l'État menacent l'avenir de la France et de l'Europe, au moment où le gouvernement demande à tous un effort de solidarité, il nous semble nécessaire d'y contribuer. » Alors là aussi, il s'agissait d'une mesure de communication dans le sens de l'effort national. Il y a un petit pas moral devant des rémunérations indécentes qui fâchent de plus en plus les Français. Alors, je vais là aussi essayer de vous dire les salaires des patrons, puisqu'ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc, en numéro 1, Jean-Paul Agon, patron de L'Oréal,
parce qu'il le vaut bien,
gagne 10,7 millions d'euros par an.
Et alors, puisqu'on est sur L'Oréal et le patron de L'Oréal le mieux payé, le ministre actuel de l'éducation est un ancien cadre de L'Oréal.
Voilà.
Ce qu'il prédisposait à faire de l'éducation.
Voilà. Et on sait bien que notre amie Liliane Bettencourt est la femme la plus riche du monde et la cinquième fortune mondiale. Alors, si on part derrière, on a Bernard Arnault à LVMH qui a 9,7 millions. Ensuite, c'est le patron de Renault, Carlos Ghosn, à 9,7 millions d'euros par an, etc., etc. Et là aussi, on ne compte pas les parachutes dorés et les stock options. Donc, on est sur des rémunérations qui sont beaucoup plus importantes que ça dans le cadre d'une vie. Alors, Dans leur livre « Les présidents des riches, enquête sur l'oligarchie dans la France » de Nicolas Sarkozy, les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot avaient montré à quel point la présidence de Sarkozy avait redistribué les richesses vers les riches, et pas que symboliquement. Une tendance que vient de confirmer la fondation Terra Nova, un think tank proche du Parti Socialiste, mais selon son étude, relativement solide, selon les personnes qui l'ont faite, Nicolas Sarkozy aurait distribué 84 milliards d'euros prioritairement aux ménages les plus aisés et aux entreprises. Alors, l'économiste...
Enfin, pas à toutes les entreprises, aux entreprises du CAC 40, c'est-à-dire celles qui n'ont vraiment pas besoin de subventions.
Exactement. Alors, l'économiste Thomas Piketty, parmi d'autres, milite depuis longtemps pour une refonte totale de l'impôt sur le revenu. Il anime un site internet qui dénonce les inégalités du système fiscal français. Vous pouvez chercher, c'est, l'adresse est http://revolutionfiscale.fr. Et vu le niveau de débat que prend cette problématique de la fiscalité, on aimerait bien que le candidat socialiste s'en inspire.
Oui, et l'actualité nous fait aussi penser à l'autre côté du manche du monde du travail, pour ceux qui en ont un, mais qui en ont un précaire. Il y avait en vote à l'Assemblée nationale cette semaine la loi Sauvadet qui avait pour objectif de résorber la précarité. C'est une loi a priori positive et quand on en lit les détails, on se rend compte malheureusement de ses gros défauts. La loi Sauvadet, en effet, qui a pour but de résorber la précarité, ne prend pas en mesure l'énorme quantité de précaires, de postes précaires qu'il existe aujourd'hui dans la fonction publique. N'est-ce pas, Gaël ?
Oui, vous qui lisez Le Point, vous savez bien que la fonction publique, c'est un ramassis de fonctionnaires privilégiés avec des emplois à vie. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça. Sur les 5,3 millions de gens qui travaillent dans la fonction publique, 17% sont contractuels, c'est-à-dire généralement en CDD, c'est-à-dire en contrat à durée déterminée, donc précaire. Et alors qu'une entreprise privée ne peut pas embaucher quelqu'un en CDD pendant plus de 18 mois, dans la fonction publique, vous pouvez rester toute votre vie en CDD, généralement au salaire minimum, sans progression de carrière et dans l'incertitude du lendemain. Alors, pour mettre fin à cette situation, c'est du moins l'objectif affiché, l'Assemblée nationale vient de voter une loi dite de résorption de la précarité, la loi Sauvadet, avec deux dispositions principales. Il s'agit d'une part de CDIiser automatiquement les gens qui sont en CDD depuis plus de 6 ans, et d'autre part d'ouvrir des concours spéciaux pour recruter comme fonctionnaires des gens qui sont en CDD depuis plus de 4 ans. L'effort est louable, mais la loi contient plusieurs restrictions qui écartent de nombreux contractuels, et notamment les temps partiels, qui sont les plus précaires, et ce sont souvent des femmes, ainsi que les gens en CDD, mais qui ont eu plusieurs employeurs publics différents au cours de leurs différents CDD. Et ça, c'est une situation assez fréquente. Donc, ceux-là sont exclus du dispositif. D'autre part, certains établissements publics ont viré... avant la promulgation de la loi, les CDD qui risquaient de remplir les conditions de CDIsation ou de titularisation. Alors finalement, avec toutes ces restrictions, selon le gouvernement, environ 12,5% des CDD seraient CDIsables et 5,6% seraient titularisables comme fonctionnaires. L'effet de la loi est donc assez limité. Ce plan de titularisation et de CDIsation, c'est le 17e plan de ce genre depuis 1946. Et à chaque plan, finalement, l'État reprend ses mauvaises habitudes et reconstitue son stock de précaires. Et aujourd'hui, tout est réuni pour que l'ancien scénario se répète, puisque parallèlement à ce plan dit de résorption de la précarité, le gouvernement maintient son objectif de réduction du nombre de fonctionnaires. Et on peut difficilement prétendre résorber l'emploi précaire dans la fonction publique et en même temps réduire le nombre de postes de fonctionnaires. Finalement, le vrai objectif de cette loi semble ailleurs. En effet, le texte prévoit que désormais, toute suite de CDD qui dépassera 6 ans sera transformée en CDI. Alors pour les gens qui sont en CDD, c'est un léger progrès. Mais d'un point de vue collectif, ça ouvre la voie à un vieux rêve des ultras de droite, à savoir casser le statut des fonctionnaires et finalement remplacer les fonctionnaires par des CDI, c'est-à-dire des contrats comme dans les entreprises privées.
ce qui change totalement la vision du service public. Et nous allons continuer sur le service public par le thème de l'éducation. Et pour lancer ce thème pour notre émission de ce soir, il y avait un petit refrain qui s'imposait.
Donne-moi ta main, et prends la mienne.
L'école est finie, plaisanterie mise à part, ce refrain bien connu chanté par Sheila pour rire de l'école des années 50 semble bien nous éloigner de cette école des années 50 qui était vantée comme l'école de l'intégration et de, on va dire, de l'ascenseur social. Alors pour parler d'éducation, nous recevons ce soir Monique Morino, professeure des écoles dans le 93 et syndicaliste. Nous allons parler avec elle de ce que l'on appelle habituellement les réformes Fillon. Alors les réformes Fillon, c'est peut-être pas le bon terme pour parler des réformes, on pourrait plutôt les nommer casse systématique de l'éducation nationale. Tout d'abord, pour parler, on va parler au travers de la maternelle et du primaire dans un premier temps, on fera le lien avec Jean-Marc ici présent pour le secondaire et puis l'enseignement supérieur. Mais les réformes Fillon, pour tout le monde, c'est une idée bien simple, réduire les dépenses de l'État en supprimant des fonctionnaires, supprimer des postes, supprimer des enseignants. Mais les conséquences sont là. Alors, quelles sont les conséquences de cette suppression de postes pour l'école?
On l'a dans le Fillon.
Alors, laissons répondre Monique.
Voilà, Xavier Darcos avait dit que ça ne se verrait pas. C'était ce qu'il avait déclaré dès 2007, que les suppressions de postes qui, d'année en année, étaient à peu près de l'ordre de 10 000 et qui, en 2012... ce gouvernement continue, ce sera de l'ordre de 70 000 suppressions de postes. Alors bien évidemment, les suppressions de postes, les mobilisations des parents et des enseignants nous ont montré que ça ne passait pas et que ça se voyait. Alors l'école est partagée en France entre des zones rurales et des zones très urbanisées. Dans les zones rurales, on a vu des mobilisations très importantes parce qu'effectivement, supprimer des postes, c'est supprimer des classes, c'est supprimer des écoles et ça peut être dramatique pour les enfants qui vivent sur l'ensemble du territoire. Dans les grandes villes, et dans les banlieues, eh bien, les suppressions de postes, c'est plus d'élèves par classe. Et bien évidemment, plus d'élèves par classe, ça ne peut pas être une école plus efficace ou une école qui réponde au mieux aux besoins des élèves. Et tout de suite après, les suppressions de postes, en même temps que les suppressions de postes et que le gouvernement disait que, bien évidemment, tout ça a été fait pour... dans l'intérêt des enfants et pour s'attaquer à la grande difficulté scolaire, eh bien, le gouvernement supprimait les RASED.
Qu'est-ce que les RASED ?
Alors, les RASED, c'est un dispositif qui est un dispositif pluridisciplinaire, qui est au sein des écoles. Dans un RASED complet, il y a des maîtres E qui ont une formation spécialisée pour remédier à la difficulté d'apprentissage des enfants. Il y a des maîtres qu'on appelle des maîtres G, qui sont là pour aider les élèves qui ont des problèmes à vivre avec les autres, qui peuvent être soit inhibés, soit au contraire qui réagissent par rapport à, leur angoisse sur le plan scolaire de manière forte, active et donc dérangeante et pour eux, pour les apprentissages et pour les autres quand ça peut aller jusqu'à des actes assez difficiles à supporter, de la violence et puis des psychologues scolaires. Et quand le RASED fonctionne et que des enseignants des classes banales sont confrontés, peuvent faire appel à un RASED, eh bien, on se réunit autour d'une table et les enseignants peuvent dire, eh bien, voilà, cet enfant, pour moi, voilà, j'observe tel et tel problème, je pense qu'il a besoin d'être aidé. Et il y a à ce moment-là un échange dans une réunion où on essaie de comprendre à quel type de difficulté cet enfant est confronté et comment il faut l'aider. En France, le problème, c'est que les RASED sont... Il y a les grosses suppressions de ces dernières années, mais souvent, les RASED n'ont pas fonctionné de manière complète. Et donc, à un moment donné, si un fonctionnement, on retire des moyens au RAZ, les enseignants des classes banales, si l'intervention des RAZ n'est pas assez précise et trop discontinue, eh bien, ils se disent à quoi servent les RAZ. Et c'est ce à quoi le gouvernement s'est attaqué en disant les RAZ n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, puisque dans ce monde, il faut toujours faire preuve de son efficacité. Ils se sont dit, eh bien, nous allons les supprimer. Et l'école, eh bien, les enseignants des classes banales trouveront bien les moyens de venir en aide à ces enfants.
Donc, encore une fois, on fait confiance aux fonctionnaires et à son éthique pour remplacer les moyens qui disparaissent.
Oui, mais je ne comprends pas du tout où on va. Ce qui intéresse les Français, c'est quand même la viande halal.
Oui, nous n'allons pas réagir. La presse réagit systématiquement à cette remarque. Non, pour revenir sur ces suppressions de postes, tout ça s'est accompagné d'un changement de mentalité. Oui. Plus en profondeur, on peut voir, et par exemple, les enseignants ont accepté finalement de basculer, de voir disparaître les RAZ et de les remplacer par ce qu'on a appelé l'aide personnalisée, qui finalement est passée dans les mœurs aujourd'hui.
Alors là, effectivement, on peut avoir l'impression que les enseignants... ont accepté. Je ne pense pas qu'ils aient accepté, parce que le sentiment de l'ensemble des enseignants, c'est tout de même que on marche un petit peu sur la tête et qu'on ne fait pas, enfin, que l'école ne propose pas aux enfants ce dont ils ont besoin. Donc, je dirais plutôt que les enseignants n'adhèrent pas à ces réformes, Fillon-Darcos. Les réformes qui s'enchaînent là, les unes après les autres, mais sont plutôt démunis sur comment réagir et quel type de rapport de force ils sont capables de mettre en place, c'est-à-dire est-ce qu'ils pouvaient, par exemple, ça a été tenté, hein, refuser par exemple ce qui devait remplacer les RAZ, c'est-à-dire l'aide personnalisée. Alors les aides personnalisées, c'est-à-dire on prend l'enseignant, choisi lui-même, l'enfant ou les enfants qui auraient besoin d'être soutenus plus précisément, et cela se fait sur la journée scolaire, c'est-à-dire qu'un enfant en difficulté a 6 heures de cours et plus 40 minutes, soit le matin, soit sur la pause méridienne, le temps du repas de la cantine, soit le soir. Et ça, c'est bien évidemment, ne serait-ce que sur ce type d'organisation-là, une aberration, puisque on pense tout de même que nous avons en France une journée d'école très très longue et que ces 6 heures contribuent aussi à fabriquer des élèves en difficulté, parce que le temps d'attention est beaucoup trop long.
Donc finalement, on voit une évolution complètement folle d'un RAZ construit, réfléchi, à ses aides personnalisées, qui ne coûte rien à l'État.
Et surtout, pas l'enseignant face à l'élève et à sa propre interprétation des difficultés, mais un regard croisé et une réflexion bienveillante sur quelles difficultés rencontre cet enfant et comment l'aider.
Alors plongeons-nous un peu dans l'histoire à présent, et une question d'école. Rappelez-vous, qui a inventé l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne.
Alors après ce rappel historique par France Gall, nous retrouvons l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel pour parler des réformes sur l'école avec Monique Morino, professeur des écoles dans le 93. Alors les réformes sur l'école dont on vient d'évoquer sur des débats chiffrés, on n'a pas eu que des débats avec suppression de postes ou disparition des RAZ, mais il y a d'autres débats, peut-être une idéologie cachée derrière, beaucoup plus nauséabonde, et qui a vu une de ses premières apparitions à travers ce qu'on a appelé le problème de bas élèves.
Oui. Alors, bas élèves, c'est un système qui vise à donner un numéro identifiant à chaque élève qui, dès la maternelle, entre dans le système scolaire, que ce numéro identifiant va le suivre tout au long de sa vie et sur lequel, dans le premier projet, Et là aussi, il y a une mobilisation qui fait que le gouvernement a dû reculer, mais le dispositif demeure toujours. Et comme tout système informatique, le danger, c'est bien évidemment qui l'utilise et puis les risques de connexion avec d'autres fichiers pour lesquels on n'a aucune garantie et on imagine bien ce que pourrait être un fichier croisé qui garderait la mémoire du développement d'un individu dès l'âge de 3 ans.
Et n'oublions pas que c'est sorti à peu près à la même époque que les déclarations de Nicolas Sarkozy qui proposait de faire de repérer les futurs délinquants dès l'âge de 3 ans. C'est tout à fait en parallèle.
Alors c'est bien pour ça qu'on parle un peu d'idéologie nauséabonde derrière ces réformes. Et on part à peur à bas élèves. On a vu aussi une autre évaluation pour l'élève et aussi le changement de socle commun.
Oui. Alors, bas élèves, c'est effectivement ce qui permet de garder la mémoire de comment un enfant apprend. Et le problème pourquoi est-ce qu'on est passé d'une école qui est une institution qui a pour fonction de permettre à un enfant de construire sa pensée, de rentrer dans la connaissance et de manière à être un individu qui est libre, un individu qui a la capacité de développer son intelligence, ses décisions, qui peut être un individu émancipé, si je veux dire les choses comme ça. Là, on est rentré effectivement en même temps que la réduction des postes, dans une école qui se vit plutôt comme non plus une institution, mais je dirais plutôt une organisation. Certains disent, comme Christian Laval parle d'entreprise. Et là, effectivement, l'école n'aurait plus le but de permettre à un enfant de développer sa pensée, mais d'acquérir ce qu'on appelle des compétences. Et le fait de cibler les compétences fait que, bien évidemment, l'enseignement va être réduit à ce qui est évaluable. Et que ce n'est pas la même chose qu'un enfant comprenne comment, par exemple, fonctionne notre système de numération, le système décimal, qui est quelque chose de très long, par exemple, à mettre en place chez des jeunes enfants, que de cocher sur un fichier qu'à 6 ans, il savait faire une addition avec retenue. Je crois que là, on n'est pas dans le même monde. Et on est en train de vider, je crois, l'école de son contenu. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que je pensais que même si les enseignants n'ont pas trouvé les moyens de réagir de manière efficace aux mesures, ils n'adhèrent pas parce que on attaque là le cœur de l'école, le cœur du métier, et aucun enseignant qui a un enfant devant lui ne peut adhérer à ce type de démarche concernant l'école.
Mais ces élèves-là n'ont pas face à eux des enseignants formés comme avant, vu qu'on a vu aussi disparaître leur formation initiale.
Oui.
La fin des UFM et maintenant la réforme de la masterisation a complètement fait basculer les nouveaux arrivants sur l'école.
Complètement. Alors ça, je crois qu'on en parlait tout à l'heure par rapport aux vacataires, par rapport à au projet de loi de permettre aux vacataires d'avoir des CDI. Je crois que dans le même temps, dans l'éducation, ce qui se dit, c'est que finalement, quand on a un niveau d'études à bac plus 3, bac plus 4, on peut être enseignant et que le métier... Être enseignant ne constituerait plus un métier, mais pourrait être un passage possible pour quelqu'un qui a un niveau d'études supérieur et que ça lui ferait sûrement du bien d'aller voir à un moment donné du côté du privé et puis revenir ensuite dans l'éducation. Et donc, effectivement, ce serait, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas utilité à former des enseignants, pas utilité à réfléchir. Alors, il y a, quand on a une formation d'enseignant, il y a bien sûr la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut par rapport, enfin, surtout dans le primaire où on est pluridisciplinaire, on prend une discipline et quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à développer, à présenter à un enfant. Là, on aurait on ne réfléchit pas. Donc, il y a cet aspect-là de sur ce qu'on appelle la didactique, hein, qu'est-ce qu'on veut enseigner. Et on n'aurait plus besoin de réfléchir là-dessus. Et surtout, on ne réfléchit pas sur ce qu'est un enfant. Et je crois que quand on parlait tout à l'heure de ce que voulait faire Sarkozy sur le dépistage des troubles des berceaux, hein, je dirais, c'est la conception qu'un enfant... C'est une autre conception d'un enfant qui ne permet, qui fige, hein, à un moment donné, un enfant dans ce qu'il manifeste à un moment donné de son existence. Et je crois que la formation des enseignants, elle était sur ces deux domaines. Ce qu'est un enfant, comment il apprend, comment il se construit. Et qu'est-ce que l'école doit lui transmettre comme savoir et comment on doit former sa pensée. S'il n'y a plus cette formation-là, eh bien effectivement, on peut être enseignant avec des méthodes qu'on nous donnerait, avec on nous mâcherait le travail, on n'aurait plus besoin de réfléchir, on n'aurait plus besoin de concevoir et on appliquerait des dispositifs, des protocoles.
Et puis je crois que ça va aussi avec deux autres idées, le mépris pour la fonction d'enseignant et de transmission des savoirs, c'est-à-dire que la fonction d'enseignant ne devrait pas s'apprendre, il n'y a pas besoin parce que c'est facile, c'est pas un vrai métier. Et par ailleurs, ça permet là aussi d'introduire la notion de précarité et de passage. Parce que si on n'a plus de formation, si c'est pas un vrai métier, n'importe qui peut le faire à un moment donné pour boucher un trou. Et en fait, on a une éducation dans laquelle on a un recrutement permanent dans un vivier de bouche-trous.
Je me souviens.
Peu importe les enfants.
Oui, tout à fait. Moi, je me souviens d'avoir vu, ça avait circulé sur, enfin, les camarades syndicalistes avaient, dans le secondaire d'une académie de l'Ouest, nous avaient transmis une petite lettre d'un inspecteur d'académie qui était désespéré de ne pas trouver des enseignants du second degré dans les différentes matières. Et il avait dit, si vous avez dans votre connaissance, dans votre entourage, des personnes qui ont des compétences avérées, proposez-les directement au service de l'éducation nationale ou aux principaux des collèges ou des lycées et il y aura une embauche immédiate. Voilà, c'était dans votre entourage quelqu'un qui a une compétence avérée. Et là, effectivement, on se retrouve dans une non-réflexion sur ce qu'est l'école comme institution et à quoi elle sert dans une société. Et c'est là tout le drame et c'est là tout le malaise des enseignants, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est détruit par ces réformes à la fois idéologiques, hein, sur le fond, et à la fois sur les moyens qui sont donnés à l'école.
Et c'est encore une fois faire rentrer l'être humain dans un monde de statistiques, c'est la politique du chiffre. L'humain ne compte plus, seul le chiffre compte. Donc on ne cherche pas à savoir si on a des enseignants formés, il faut un adulte. Et le glissement du vocabulaire des hommes politiques est très... très intéressant. Depuis une quinzaine d'années, plus ça va, plus les hommes politiques parlent d'adultes à l'école et non plus d'enseignants, de professeurs. Parce que, justement, c'est juste une notion quantitative.
Et je voulais rajouter quelque chose sur les suppressions de postes. C'est le moment où ces suppressions de postes arrivent. C'est-à-dire, bon, on sait pourquoi ce gouvernement et la droite veulent réduire les dépenses publiques, mais on est dans une période où les enfants sont tout de même des enfants que je dirais surstimulés par leur environnement social, leur environnement culturel, qu'ils ont accès à une une multitude d'informations et que le fait d'avoir des connaissances ne construit pas la pensée. Or, si on a autant de difficultés à enseigner et d'avoir des enfants qui ont autant de mal à être élèves, hein, entre guillemets, c'est que justement, ce sont des enfants qui ont besoin de beaucoup plus d'attention parce qu'ils reçoivent de leur environnement beaucoup de choses et qu'après, il faut détricoter tout ça pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent accéder à un vrai savoir. Et que dans ce monde où, qui se complexifie, et en même temps dans ce monde qui vit une crise économique et où donc les enfants des classes les plus faibles vivent des choses très très difficiles, c'est là où le gouvernement se permet, s'autorise à retirer des enseignants. Et je trouve ça absolument dramatique et catastrophe, inadmissible pour la vie de ces enfants.
Criminel.
Oui.
Alors nous verrons dans un deuxième temps comment et pourquoi cette idéologie globalement est arrivée. On va reporter un peu sur l'historique et voir un petit peu au niveau européen. Mais pour conclure, après cet enchaînement un peu point à point de toutes ces réformes, on voit encore, et heureusement, que si l'école tient, c'est par la foi, le sacerdoce des enseignants. Mmh. Et un exemple donné par une chanson qui s'appelle Les Fatales Picards, la sécurité de l'emploi.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Chaque tour, une virage, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci, c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par des militants d'attaque et des journalistes du journal Le Piaf.
Et par Monique Morineau qui nous a rejoint pour cette émission pour parler en plus en détail de l'école et de la maternelle et du primaire. Dans cette deuxième partie sur le thème, nous allons prendre un peu de recul, c'est-à-dire essayer d'analyser pourquoi, comment, quels sont les moyens qui ont permis que ces réformes finalement passent assez facilement dans la société française, voire européenne, et en essayant de remonter un petit peu le temps et de voir que c'est une évolution politique qui date depuis les années 90.
Alors, au niveau européen, il y a des choses qui se sont mises en place il y a déjà un bon paquet d'années, puisque dès le milieu des années 80, il y a des gens qui, dans les milieux économiques, commencent à réfléchir sur l'éducation et qui trouvent que l'éducation coûte trop cher et que surtout elle n'est pas assez utile à l'économie. Et ça va donner naissance sous l'égide de l'Union européenne, qui ne s'appelle pas encore comme ça à l'époque, à la création de la table ronde européenne. Et cette table ronde européenne pour l'éducation est quelque chose d'intéressant. Ça parle d'éducation, ça fait des rapports pour mettre en place des projets éducatifs et des politiques éducatives. Or, dans les membres de cette table ronde européenne sont pratiquement tous des chefs d'entreprise. Il n'y a pas de gens qui sont du monde de l'éducation dans cette table ronde européenne. Et le drame de l'éducation en Europe se noue dans ces années-là. Et un certain nombre de réformes faites depuis dans les pays différents et en Europe découlent de cette espèce de racine pourrie.
Alors la continuité de cette ERT a été traduite par le processus de Bologne, mais qui s'est surtout traduit par le fameux traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne qui a essayé de marquer dans le marbre une évolution de l'éducation européenne globale en mettant une sorte de cahier. Donc il faut tous les 4 ans, il y a un autre traité qui est signé pour essayer de voir si tout a bien été mis en place. Alors cette mise en place est souvent très dangereuse. Elle commence évidemment par parler d'uniformité au niveau européen, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes rythmes et les mêmes traditions. Mais elle passe aussi par des mots assez dangereux, comme par exemple faire basculer petit à petit toutes les connaissances vers des compétences et même une marchandisation de la compétence, c'est-à-dire qu'une formation qui est là pour éduquer se retrouve pratiquement à quelque chose de commercialisable.
Et puis il y a deux idées fortes qui découlent de tout ça, c'est que l'école n'est plus justement un instrument d'émancipation et de connaissance, mais un instrument qui doit être mis au service de l'économie et de l'employabilité, avec ce néologisme absolument affreux. Et l'autre idée qui est sous-tendue par ces textes européens, c'est que l'école est une marchandise comme les autres. C'est le même mouvement que pour l'hôpital, la santé, le service public en général, mais c'est particulièrement choquant quand il s'agit de l'éducation et de la santé.
Alors, si ces réformes sont bien passées d'un point de vue structurel, c'est aussi une évolution des esprits et peut-être une droitisation, finalement. Est-ce que on peut voir sous ce terme-là ou disons, en quelque sorte, est-ce que l'éducation est bien pour tout le monde ?
Il y a déjà le vieux principe des libéraux, et qui n'est pas nouveau, c'est déjà au XIXe siècle, et ça continue tout au long du XXe siècle, c'est l'idée qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres. Ça, c'est un fait avéré, mais que les pauvres sont pauvres parce que finalement, ils manqueraient de mérite. Ils manqueraient de mérite, alors que les riches sont devenus riches parce qu'ils sont méritants. Ce qui est totalement faux et qui est démenti par toutes les enquêtes, même les plus récentes, sur justement l'origine de la richesse des riches, qui est plutôt l'héritage que le mérite. Et les pauvres restent pauvres parce qu'ils ne seraient pas capables de se débrouiller. Et ça va aussi avec ce qui était dit tout à l'heure. Par exemple, le passage d'une aide structurée collective à une aide individualisée. C'est l'individu qui peut s'en sortir, faire une véritable success story, à la place d'être éduqué dans un système collectif fait pour tout le monde.
Alors, dans cette évolution, on peut voir son implication au niveau, par exemple, de l'école. On en a déjà parlé un petit peu, de cette évolution des connaissances vers les compétences. Un autre aspect qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est la surévaluation des élèves aussi.
Alors, je crois que la surévaluation, elle est couplée avec la notion de compétence. Je crois que si... d'une part, les différents gouvernements européens et en particulier le nôtre a réussi à faire passer cette formation. C'est d'une part parce qu'il a tout de même saucissonné les choses, avancé, il savait où il voulait aller, mais les choses ont toujours été présentées de manière assez fractionnée et il était parfois difficile pour les enseignants comme pour les parents de comprendre la finalité hein, de ces réformes. La notion de compétence repose aussi sur le fait que il faut que l'école soit efficace, performante, et que une école efficace, c'est justement on est tous d'accord pour dire que notre système, on le défend pas tel qu'il fonctionne. Hein, il faut améliorer l'école parce qu'effectivement, il y a trop d'enfants qui ne sont pas bien à l'école, auxquels l'école n'apporte pas ce qu'elle devrait apporter et laisse sur la touche. Ça, on est bien d'accord. On n'a pas réussi à démocratiser. L'éducation, on pourra après en parler sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que l'école fonctionne mieux. En tout cas, là, ce qui est proposé avec les compétences, ça repose sur une illusion. Et une illusion qui condamne un enfant à être empêtré dans ses difficultés si il est issu d'un milieu où par son histoire il n'arrive pas à rentrer de manière simple dans les apprentissages. Je crois que je me souviens de ce qu'avait dit moi je viens de la Seine-Saint-Denis quand Claude Allègre a été ministre de l'éducation nationale.
Et il pourrait le redevenir.
Voilà, il a tout de suite dit, mais comment se fait-il que les élèves de la Seine-Saint-Denis ont un si faible taux de réussite aux évaluations qui existaient déjà ?
C'est à cause des cantines halal.
Voilà. Alors, donc il y a eu une grande enquête, et ce qui a été dit, enfin, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que le taux d'encadrement des élèves de la Seine-Saint-Denis était très bas par rapport au taux d'encadrement qui existait sur l'ensemble du territoire. Nous avons dû faire une grève historique où nous sommes battus pour un plan de rattrapage. Nous avons eu 3000 postes. On en demandait le double. Et je me souviens de cette réaction de Claude Allègre qui m'avait beaucoup choquée, qui avait dit dans 2 ans, il faudra des résultats. Sauf que l'enseignement, ça marche pas comme ça. Et c'est dramatique, je trouve, que de dire on veut investir dans l'école, mais il faut des résultats. Eh bien non, l'investissement dans l'école, c'est un devoir pour les enfants, un devoir pour notre bien-être à tous, et ça ne peut pas être, l'objectif, on ne peut pas la piloter par l'efficacité. C'est un contresens au niveau de ce qu'est une démarche d'apprentissage pour un enfant.
Alors c'est une démarche utilitariste pour la société, pour le monde de l'entreprise. C'est peut-être pas si visible que ça. Il faut être sur le terrain pour voir à l'école sa conséquence. Par contre, dès le collège, on le remarque avec la professionnalisation qui est maintenant orientée dès la 5e, 4e, de manière assez massive pour les étudiants, pour les élèves en difficulté.
Alors ça aussi, c'est une longue histoire. C'est un vieux serpent de mer puisque c'est une histoire qui date du milieu des années 70 quand on réforme le secondaire et qu'on va créer le collège unique. Le collège unique, c'est l'idée que tout le monde doit passer par le collège et qu'on ne doit pas rentrer dans la voie professionnelle de manière très prématurée, ce qui correspond à l'évolution de la société d'ailleurs et à l'évolution aussi des emplois. Il ne faut pas croire que c'est complètement déconnecté. Et à partir du milieu des années 80 et des années 90, la droite française va commencer à remettre en question le collège unique sous prétexte que les résultats ne serait pas assez bon et à avancer des projets pour la professionnalisation précoce des élèves. Alors à certaines époques, ils proposent d'envoyer les élèves en apprentissage après la 5e, alors qu'il n'y a plus d'apprentissage à l'époque. Après ça, ça va être à la fin de la 4e, puis ça va être créer des filières parallèles. Aujourd'hui, le gouvernement a 2 mois, même pas des élections, propose un projet de professionnalisation précoce à la fin de la 4e, ce qui est complètement en trompe-l'œil. Pourquoi ? Parce que on propose la professionnalisation en disant bah, le système du collège unique marche pas, il y a des élèves qui sont pas faits pour faire des études, il faut qu'ils aillent vers l'entreprise et vers des formations en alternance ou des diplômes, mais qui ne soient pas le brevet ou le bac. La seule question, c'est qu'on veut faire sortir de la classe de 4e des élèves alors qu'il n'y a plus de BEP, il n'y a plus de CAP, on en a supprimé plus de la moitié dans les 5 dernières années. Donc c'est une escroquerie à ce niveau-là. On dit on va les faire sortir, sauf qu'on a, on les fait sortir d'un côté, mais il n'y a nulle part où les mettre. L'autre chose qui est sous-tendue par ça, c'est une politique qui dure là aussi depuis plus de 10 ans. C'est la volonté de supprimer l'enseignement professionnel public. Et d'ailleurs, les premières suppressions de postes massives ont eu lieu dans les lycées professionnels, alors même que la droite n'arrêtait pas de dire qu'il fallait valoriser les lycées professionnels et l'enseignement des manuels qu'il fallait valoriser, etc., etc. Et on shoot en fait les élèves vers les CFA. Les CFA, ce sont des centres de formation et d'apprentissage qui sont en fait des organismes privés gérés par donc les chambres de commerce et les chambres patronales. Donc c'est une manière de faire sortir du système public des élèves pour les mettre dans des établissements privés qui dépendent donc des chambres patronales et des chambres de commerce et qui vont former des gens non pas en fonction de leurs envies mais en fonction de des besoins du patronat, ce qui change complètement la donne.
Et pour motiver les élèves en difficulté, il y a peut-être plusieurs moyens. Et écoutons le moyen imaginé par Brassens, c'est chanté par Maxime Le Forestier, la maîtresse d'école.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées, comme il fut doux le temps bien éphémère. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi, émission des précaires et des chômeurs, avec ce soir les militants de l'association ATTAC et les journalistes du PIAF.
Notre thème était l'éducation. On a parlé de l'évaluation en général par rapport aux compétences. Et l'évaluation, c'est un thème de combat militant actuel. N'est-ce pas, Monique ?
Oui, parce que je crois qu'il n'y a pas de... Rien n'arrête ce processus d'évaluer à tout crin, puisque nous avons vu, là, à la rentrée, sortir un projet d'évaluation obligatoire en grande section maternelle qui stigmatisait les enfants en les étiquetant à risque, à haut risque ou rien à signaler. C'est un exemple frappant hein, d'une méconnaissance de ce qu'est un enfant et de comment on peut inscrire un enfant dans ses difficultés sous le prétexte de l'aider. Et je crois que le gouvernement ait osé aller jusque-là en dit long sur l'évaluation qui est un système à combattre résolument tel qu'il est pratiqué actuellement.
Enfin, on va avoir une évaluation intéressante à faire dans à peu près 50 jours où on pourra tirer les conséquences justement d'un très bon bulletin scolaire de l'élève Sarkozy.
Alors, une des réformes de ce gouvernement, et qui d'ailleurs est en train d'être mise en place, qui ne concerne pas l'école, mais qui est toujours sur le même thème, c'est l'arrêté du plan licence.
Oui, la dernière réforme de la licence est dans le droit fil de la politique européenne d'éducation. Et comme dans le primaire, comme dans le secondaire, on remplace les connaissances par les compétences. Donc en août 2011, le gouvernement a publié un arrêté qui redéfinit le diplôme de licence comme un ensemble de compétences, c'est-à-dire des savoir-faire techniques directement utilisables en entreprise. Alors, par exemple, si vous regardez le programme de la licence de maths d'une grande université, vous ne trouverez pas d'algèbre ni de géométrie. Vous trouverez des choses comme travailler avec des concepts abstraits et dans un contexte général. Ça, c'est une compétence. Une autre compétence, choisir et mettre en œuvre des mesures et des méthodes et des techniques appropriées pour résoudre des problèmes. Communiquer les résultats en suivant des styles, conventions et terminologies appropriées. Donc tout ça, ce sont les compétences d'une licence de mathématiques. Et pour être sûr que toutes les universités joueront bien ce jeu des compétences, l'arrêté licence impose une participation des représentants du monde socio-professionnel, donc en français clair des patrons, dans la conception et l'évaluation des enseignements. Et troisième élément de cette course aux compétences, le grand classique, le stage en entreprise, qui doit désormais être proposé à tous les étudiants de licence. Or, si tous les étudiants de licence se mettent à chercher des stages, il est certain qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et c'est la porte ouverte à des stages bidons, mal payés, voire pas payés du tout. L'argument de toute cette réforme, c'est l'insertion professionnelle, qu'on ne pourrait naturellement pas refuser. En réalité, sous couvert d'insertion professionnelle, la nouvelle licence tourne le dos à une mission essentielle de l'université, ou à ce qui devrait être une mission essentielle de l'université, comme de l'école, c'est-à-dire offrir à chaque étudiant les armes intellectuelles pour construire son autonomie.
Alors, on vient de citer beaucoup d'exemples, et on peut essayer de conclure un peu notre débat sur l'éducation par un cas assez concret, finalement. C'est-à-dire qu'au lieu de former l'individu par, je sais pas, une émancipation de son esprit à être capable de se confronter au monde le mieux possible et de manière la plus critique, on finit par avoir, soit ça, à chaque élève, un cahier, un livret où on a à cocher, enfin, l'enseignant qui n'est plus, devient plus un évaluateur automatique qu'un véritable enseignant, se retrouve à avoir à remplir un livret. Alors, Monique nous a parlé tout à l'heure du livret de compétences, qui justement à l'école primaire est une catégorie assez impressionnante où il faut pouvoir cocher chaque case en fonction. Je sais pas, il y a des exemples concrets parfois assez tristes.
Oui, enfin, il y a des. C'est une litanie de tâches qu'un enfant devrait savoir faire. Ça ne nous dit pas grand chose de justement des connaissances qu'il a acquises dans tel et tel domaine. C'est effectivement un savoir-faire. Et ce qui est le livret de compétences, il doit aussi, quand, par exemple, calculer addition, soustraction, multiplication, où je prends divisé par 2 et par 5, dans le cas où le quotient exact est entier, hein, ça va de manière aussi précise que ça, eh bien, il faut indiquer la date à laquelle cet enfant a acquis ses compétences, parce que ça en dit long sur ses capacités à apprendre plus ou moins vite.
Alors ça existe aussi au collège et les projets gouvernementaux allaient beaucoup plus loin puisqu'en fait ces livrets de compétences pourraient s'étendre de la maternelle à l'université et pourquoi pas être ensuite connectés avec Pôle emploi, ce qui permettrait d'avoir une sorte de livret ouvrier, c'est la recomposition d'un passeport qu'on attache aux enfants et qui va devenir leur passeport d'employé quand ils seront dans la vie active et que les employeurs pourraient consulter pour savoir jusqu'à la maternelle quelles étaient les compétences et les ratages. Et l'autre chose qui est très intéressante avec tous ces livrets de compétences, c'est la finesse du truc, c'est que tout est binaire, c'est bon, c'est mauvais, alors que justement bah, l'humain c'est pas blanc ou noir, il y a plein de gris, et que surtout quand il s'agit d'éducation et d'enfants, bah, on a besoin de toutes les nuances. Là c'est blanc ou noir.
Blanc Noir, ça va être notre agenda aussi pour terminer en 2 minutes. Alors on donne juste les intitulés et les dates. Boris.
Alors je commence. Donc demain, le collectif Tenon souhaite s'opposer à un rassemblement organisé pour la 6e fois depuis septembre par les intégristes catholiques qui prétendent de s'installer devant la porte de l'hôpital Tenon pour culpabiliser les femmes et faire pression sur le personnel hospitalier et la population du 20e. Donc c'est demain, 4 rue de Chine, métro Gambetta, devant l'entrée de l'hôpital.
Toujours demain à 14h, place de la Sorbonne, les enseignants-chercheurs essayent de pousser le gouvernement, ou plus exactement de pousser les futurs gouvernements socialistes à ne pas maintenir les réformes de ces dernières années qu'on a un peu évoquées aujourd'hui. Si vous voulez les rejoindre, c'est demain à 14h, place de la Sorbonne.
Sur le nucléaire, dimanche 11 mars, une manifestation à 15h devant l'hôtel de ville de Paris, un an jour pour jour après Fukushima.
Alors, en enchaînant, jeudi 15 mars, les jeudis d'Acrimed, association de critique des médias, qui vous parlera des think tanks, les experts et les médias, avec tout leur débordement médiatique, justement.
Le Forum Alternatif Mondial de l'Eau, c'est à Marseille, du 14 au 17 mars, sur le Dock des Suds. C'est le rendez-vous de tous ceux et toutes celles qui se battent pour l'eau, contre l'accaparement et contre les privatisations.
Sortir ou pas du nucléaire, alors c'est l'ouverture du festival Effet de Serre avec Hervé Kampf, parrain de la 4e édition du festival. Ça sera à partir de vendredi 16 mars, à partir de 19h sur l'île Saint-Denis, au centre culturel Jean Villard, 3 rue Lénine, sur l'île Saint-Denis.
Eh bien, merci, et on dit merci à Boris, à Gaël, à Jean-Marc et à Monique de nous avoir rejoints, ainsi que Sylvain et Claude à la technique. Et nous finissons ce thème sur l'éducation par la maîtresse de Thomas Pithiot.
La maîtresse est stressée. Il faut dire qu'aujourd'hui elle se fait inspecter, même si elle est habituée, elle a tout bien rangé. Elle a dit: je suis malade, ne me fais pas crier.